pose plein de questions sur des sujets divers et variés. Tijibus FM fait appel pour toi à des personnes expérimentées.
Un expert te conseillera, te donnera des clés de réussite ou encore te partagera ses expériences pour que tu deviennes ainsi un pro sur toutes les discussions abordées chez toi ou en vacances. Alors, si t'as un sujet qui te botte et que t'aimerais bien en découvrir toutes les facettes lors d'une prochaine émission, fais-nous le savoir tout vite au 09 82 81 55 66.
Question en vrac à Le Brac, l'émission du jeudi qui contre-attaque.
Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Petit Gibus FM et on vous propose une nouvelle émission à questions en vrac à Le Brac. Quand on est bénévole au sein d'une association, c'est pas parfois où commence et où se termine notre responsabilité. Il en est de même un petit peu aussi pour nos responsabilités en termes d'assurance. Et on sait bien que quand tout va bien, puis que parfois, eh bien, il faut pas attendre de rencontrer un souci pour se poser ces questions-là et pour justement bien comprendre un peu l'importance d'une bonne assurance quand on est une association, responsable associatif, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Eh bien, on accueille aujourd'hui au téléphone Tiphaine Rollin, donc chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs. Salut Tiphaine!
Bonjour Laurent.
Et donc voilà, on est content de réentendre le sourire de Tiphaine, voilà, puisqu'on va avoir la joie cette année de l'accueillir ou au téléphone ou dans les studios une fois par mois, elle ou ses collègues. Hein. Ça fait du bien de se réentendre.
Oui, tout à fait.
Et donc Tiphaine, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette émission, eh bien, c'est justement avoir plus d'informations sur l'obligation ou non d'avoir une assurance, la notion de responsabilité civile, les obligations aussi, et puis on va dire la responsabilité justement en tant que dirigeant sur le fait ou pas d'avoir ou pas une assurance, ça, c'est bien cela.
Oui, exactement.
Voilà, donc les éléments essentiels justement pour une association. Et donc la première question qui se pose aujourd'hui, c'est justement, est-ce qu'une assurance, c'est obligatoire?
Alors oui et non. Ça dépend de l'objet associatif de l'association. En fait, on a les associations qui sont sportives. Déjà, la loi et le code du sport obligent à prendre une assurance, une responsabilité civile pour elle et ses membres. On va expliquer ce qu'est une responsabilité civile. Pour les associations dites socioculturelles, là, il n'y a pas d'obligation, mais on va le voir tout au long de cette demi-heure que c'est largement conseillé. Mmh. Et que dans de nombreuses situations, de toute façon, une attestation est demandée, donc une responsabilité civile. Okay. Certaines assurances sont obligatoires aussi pour des associations, pour en citer quelques-unes, de tourisme ou de chasse. J'en parle parce qu'on est aussi en plein dedans en ce moment pour la chasse. Mmh. Donc là, oui, elles ont aussi une obligation législative de prendre une responsabilité civile.
D'accord. Eh bien, justement, on va peut-être rappeler qu'est-ce qu'une responsabilité civile?
Alors, une responsabilité civile, c'est la mise en... En fait, c'est quand il y a ça couvre les dommages matériels et corporels qui sont causés au tiers. Donc, c'est lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée. En l'occurrence, ici, l'assuré, c'est la structure morale, mais c'est aussi les personnes qui vont composer cette structure morale. C'est-à-dire ses dirigeants, ses membres, ses adhérents, qui peuvent être différenciés, et aussi parfois son public, ainsi en étant et comprend des assurances complémentaires pour certains événements que l'on va organiser. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'un participant membre va engager pourrait en tout cas engager la responsabilité de l'association. Mmh. Et attention, ça n'est pas parce que la plupart d'entre nous, on a des responsabilités civiles individuelles hein, en tant que personne physique, que ça va couvrir les actions les dommages qui peuvent se causer dans le cadre des activités de l'association. C'est vraiment à la structure morale de couvrir ses membres et ainsi, eux, ce ne sera pas leur responsabilité civile individuelle qui sera engagée, mais bien ce qu'il s'est passé dans le cadre des activités de l'association.
Mmh, oui, un bénévole qui intervient et qui, on va dire, où son assurance, sa RC ne va pas couvrir, c'est bien celle de l'association parce qu'il est dans le cadre de son bénévolat au sein de l'association.
C'est ça.
Mmh, d'accord. Et justement, la RC, hein, on le dit aussi sous ce nom-là, ce diminutif-là, qu'est-ce que ça couvre justement?
Alors, il faut toujours qu'il y ait un dommage vis-à-vis d'un tiers du fait d'un tiers, enfin d'un tiers ou d'un membre de l'association. Donc, je précise bien, parce que ça ne couvrira pas, enfin tout ce qui est par exemple du matériel, on y reviendra, c'est vraiment un contrat qui est à part.
Oui.
Donc les circonstances vraiment du sinistre, en tout cas du dommage, vont être étudiées. Qu'est-ce qui est couvert par la responsabilité civile ? C'est donc les activités de la structure morale, donc de votre association. Ce sont ses dirigeants, ses représentants aussi légaux et statutaires qui peuvent être différents, parce qu'il peut y avoir par exemple aussi un directeur, des salariés, enfin voilà, qui sont en partie couverts par la responsabilité civile. Tous ces membres, je précise aussi les mineurs qui sont confiés, parce que j'ai régulièrement des questions par rapport à ça, quand il y a des activités très spécifiques avec des enfants en bas âge et autres, tant qu'ils sont déclarés, ils sont aussi couverts par, en tout cas par rapport aux dommages qu'ils pourraient causer, par la responsabilité civile, et tout bénévole ou membre de passage dans l'association tant qu'ils sont déclarés.
Mmh. Quand vous dites tant qu'ils sont déclarés, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a forcément un listing ou des bénévoles ou des gens justement du public pour pouvoir justifier qu'ils sont justement membres de l'association.
Alors oui, c'est pas nominatif. On va estimer le nombre, alors parce que souvent on m'appelle également pour me dire oui mais je sais pas exactement combien je vais avoir de bénévoles ou de personnes de passage ou à combien on peut être en même temps dans l'association, parce qu'il faut toujours avoir encore une fois le côté circonstanciel. Il y a un dommage, il faut prendre le nombre de personnes aussi maximum que vous pouvez avoir, si je prends l'idée d'une pièce pour imager les choses, dans cette même pièce. Et donc il faut mettre à peu près c'est une moyenne qu'on fait quand, évidemment, on ne sait pas encore en début d'année le nombre de bénévoles. Par contre, si demain, vous êtes une association employeuse, il faut pouvoir déclarer si vous avez d'un coup 4 nouveaux salariés. Et puis pareil, en cas de changement au sein du bureau, parce que c'est souvent le plus important, c'est pas le bon mot, mais pour les dirigeants, il y a des couvertures en plus complémentaires spécifiquement pour les dirigeants associatifs en fonction de l'activité de l'association, donc c'est très important de les déclarer. Mais comme pour les activités, toute nouvelle activité, en fait toute nouvelle chose acquise ou faite au sein de l'association, il faut penser à le déclarer, et si on a un doute, passer un coup de fil à son assureur.
Voilà, ouais, pour savoir lui quelles informations il a besoin pour s'assurer que ces personnes-là soient couvertes. Ok.
C'est ça.
Et justement, il y a plusieurs formats de responsabilité civile. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, on différencie ce qu'on appelle au départ déjà la responsabilité civile contractuelle et délictuelle. C'est des terminologies qui sont vraiment au niveau d'assurance, c'est juste que pour familiariser les associations qui nous écoutent aujourd'hui à des termes qui vont être employés par leur assureur demain pour des pièces qui seront demandées par exemple suite à un dommage ou à un sinistre. Tout ce qui est contractuel, il y a un lien, une sorte de contrat comme l'indique le nom, entre l'association, son dirigeant et des personnes accueillies. Ça peut être un ticket. Vous organisez un événement, un ticket qui soit pris en ligne ou qui soit donné le jour J. Ça peut être une convention. Tous ces éléments-là, une inscription, etc. Et l'association, elle doit respecter dans ce cadre-là des obligations. Une obligation d'encadrement, de surveillance et de sécurité. C'est les trois principales. Quand je parle de sécurité, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, vous avez un gradin qui vous appartient, qui est en bois. Vous devez le faire réviser sa sécurité, je dis n'importe quoi, tous les 3 ans. Vous organisez un événement. S'il y a un incident, on va aller étudier les circonstances de l'accident et on va aller surtout vérifier aussi que l'association a bien mis en place tout ce qui concerne la sécurité, c'est-à-dire la vérification du gradin, c'est-à-dire peut-être des panneaux aussi si les marches sont grandes pour indiquer. Enfin, voilà, tout ce qui est sécuritaire autour. Si vous êtes dans le cadre de mineurs et que vous êtes un centre aéré, par exemple, vous accueillez des jeunes mineurs, on va vérifier aussi qu'au niveau de l'encadrement, tout a été respecté. Et pareil pour la sécurité, je peux prendre aussi un exemple très précis. Vous avez une échelle, un enfant se blesse, l'échelle lui tombe dessus. Qu'elle faisait l'échelle ici ? Est-ce que c'était normal ? Est-ce que la responsabilité va être engagée ? Les circonstances vont être étudiées ? Et on n'en parlera pas spécialement ce matin, mais on peut avoir aussi une responsabilité, bien sûr, pénale.
Oui, bien sûr. Oui, après, les repères peuvent être justement la loi, tout simplement. Et si on n'a pas respecté la loi, ben, la responsabilité civile peut être mise en pas en cause, mais voilà, on va dire utilisée.
Oui, tout à fait,
quoi.
Oui.
Okay.
Exactement.
Et donc, vous avez parlé juste après, justement de la responsabilité civile délictuelle.
Oui, alors là, il n'y a pas de contrat entre l'association et la personne les personnes qui en sont victimes. Alors la loi va du coup étudier encore une fois les circonstances de l'accident. Il faut que le dommage soit réparable, même s'il n'était pas prévu. Et il faut qu'il existe une cause en fait de ce dommage et qu'il y ait vraiment un lien causal entre pourquoi ça s'est passé, est-ce que c'est la responsabilité de l'association ou d'un de ses membres, et donc les circonstances vont être étudiées. Mmh. C'est dans le cas, en fait, il faut se dire où il n'y a pas de contrat. S'il n'y a pas de contrat, c'est que ce sera délictuel. On a, bien sûr, ensuite, je l'ai cité déjà de manière un petit peu inhérente et en fil rouge de tout ce que je viens de détailler, la responsabilité civile envers ses adhérents. Là, je reviens à la responsabilité de la structure morale. Elle a une responsabilité envers ses membres. Merci. Il y a par contre des exonérations, j'en profite pour le placer ici, regardez toujours les petites lignes de vos contrats et les exclusions, parce qu'elles sont importantes à étudier en fonction de l'objet de votre association. Si j'ai cité la dernière fois, ça va paraître peut-être un peu gros, mais vous faites du théâtre et demain vous allez accueillir sur 5 spectacles un cracheur de feu. Vous avez peut-être une exclusion incendie, comme très régulièrement dans votre contrat principal de responsabilité civile. Au vu du spectacle que vous allez accueillir les prochains mois, il pourrait être intéressant de prendre une complémentaire d'assurance parce qu'il y a plus de dangers et de risques inhérents au fait que vous ayez un cracheur de feu présent. Mmh. Et donc vous avez une responsabilité bien sûr accrue envers vos adhérents, mais il y a aussi la responsabilité civile spécifique envers vos bénévoles et il y a une responsabilité civile envers vos participants, c'est-à-dire les spectateurs, le public, comme je viens de le citer.
D'accord.
Donc tout ça, c'est vraiment à étudier, c'est à déclarer, et il y a des complémentaires d'assurance qui peuvent être prises, des extensions. Quand je parle de complémentaires, c'est pas forcément des complémentaires annuels, ça peut être vous organiser un événement, et exactement en reprenant l'exemple que je viens de citer, si ça n'est pas sur 4 spectacles, mais juste un seul, on préfère prendre une complémentaire d'assurance pour augmenter aussi son plafond de dédommagement en cas de problème, sur une journée, par exemple.
Oui, et puis
ce qu'on appelle des contrats temporaires.
D'accord, oui, et puis tout ça, on va dire, c'est une petite démarche, un coup de fil. Ça ne va pas coûter très cher à l'association, mais par contre, s'il arrive un souci, là, au moins, elle est mieux couverte, quoi.
Exactement.
Mmh. Parce que des fois, on hésite à faire ça, on dit, ça va me coûter encore un bras, hein, comme on dit, quand on est responsable associatif, mais vaut mieux payer peut-être 50€ pour une manifestation ponctuelle que d'avoir un souci, et puis que finalement, ça nous en coûte un petit peu plus que 50.
Et surtout, je conseille de faire des devis parce qu'on a toujours peur qu'en appelant, tout de suite, ça enclenche la démarche. Mais vous pouvez tout simplement anticiper en faisant déjà un devis et en étudiant. Et ça permet parfois aussi de réviser le format de son événement.
Puis de comparer aussi et d'avoir l'occasion aussi de se re-questionner sur son contrat aussi en général. Chose à faire de temps en temps aussi. OK, très bien, on a déjà pas mal avancé. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'assurance justement auprès des associations. Et simplement, on va aborder en fait les obligations, qu'est-ce qu'on doit assurer et puis quelles sont un petit peu les responsabilités des dirigeants par rapport à ce fait-là. OK ?
Merci.
Ça tout de suite.
Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera. Les bon hiver, c'est mon Noël, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus quel est ton âge. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils, et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche. Un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Sûrement pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père.
On attend les dernières notes de musique. Vous êtes toujours à l'écoute de Petit Gibus FM. On continue notre émission Question en break à le break avec notre invité au téléphone, donc Tiffaine Rollin, qui, je le rappelle, est chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs. Avec elle, là, on parle aujourd'hui d'assurance, de responsabilité quand on est justement administrateur d'association ou autre responsabilité. On va continuer, Tiffaine, je vais vous laisser nous dire un petit peu quelles sont justement les obligations en termes d'assurance. On a parlé d'ERC et tout ça, mais là, quelles sont un peu les obligations suivant notre contexte et suivant les situations où on peut être en tant que responsable associatif, qu'est-ce qu'on doit assurer obligatoirement, on va dire.
Ben, je pense que le mot à retenir que vous venez de citer, c'est effectivement contexte. Contexte, objet associatif, activité. En fait, il n'y a pas d'obligation juridique à ce que l'association souscrive une assurance. Je rappelle, sauf pour les quelques associations que j'ai citées, sportives, touristiques ou de chasse. Mm-hmm. Mais par contre, l'association est soumise à certaines obligations, notamment des obligations qu'on appelle de moyens ou de résultats. Mm-hmm. Ça veut dire qu'elle engage sa responsabilité dans la réalisation d'activités. Or, une activité a bien souvent besoin, par exemple, d'un local.
Oui.
Un local qui va être soit loué, soit dont l'association va être propriétaire, soit mise à disposition. Ça peut être une mise à disposition à titre gratuit ou une mise à disposition qui est dite de prêt. Donc, soit il y a un bail, soit il n'y en a pas. Ce qui est sûr, c'est que, moi, je donne toujours l'exemple, mettez-vous, vous aussi, en tant que locataire ou propriétaire de votre logement, vous avez une responsabilité dite locative, par exemple. Mmh. Donc, pour l'association, c'est exactement le même principe. Ça veut dire qu'il faut prendre une assurance qui est obligatoire lorsque vous possédez un local en location ou en propriété. Mmh. Quand on vous met à disposition, et c'est là que je citais en introduction que bien souvent, même s'il n'y a pas d'obligation de responsabilité civile dans le cadre de nos activités, il est demandé des attestations.
Oui.
On est en plein dans cet exemple. On met à disposition, vous organisez un événement, la commune vous met à disposition, par exemple, la salle des fêtes. Très régulièrement, la commune, c'est normal, elle va vous demander une attestation de responsabilité civile. Parce qu'encore une fois, en cas de dommage, c'est pour que vos deux assurances puissent se mettre en contact et qu'il y ait un dédommagement.
Bien sûr.
Donc, typiquement, voilà, je prends souvent, mettez-vous tout de suite, parce que ça nous parle à tous, hein, déjà nous, dans notre quotidien, et comment est-ce qu'on peut ensuite le mettre en miroir avec l'association. De même, on est aussi dans un exemple qu'on peut comparer à celui de nos vies personnelles, l'association possède un véhicule. C'est la première, le premier constat. Si elle possède un véhicule, là vous savez que c'est la loi qui l'oblige aussi, hein, on a une assurance qui est obligatoire de responsabilité civile. Et il peut y avoir des extensions de garantie selon si c'est une personne qui va régulièrement conduire cette voiture et donc il y aura une garantie protection conducteur renforcée, ou si au contraire plusieurs membres de l'association vont régulièrement emprunter cette voiture, ben, dans le contrat ce sera spécifié non pas nominativement mais que plusieurs personnes, en tout cas telle et telle personne vont être amenées à la conduire.
Avant que vous passiez à l'autre, point sur les véhicules, on se pose souvent aussi la question, bah tiens, on a un salarié ou des salariés, on n'a pas forcément de véhicule, on va dire, de l'association, de la structure, mais par contre, ils l'utilisent régulièrement. Est-ce qu'eux, il faut qu'ils fassent une démarche? Est-ce que c'est l'association qui doit faire une démarche vis-à-vis du véhicule personnel? Comment ça marche? Je vous pose peut-être une colle.
C'est exactement ce que j'allais expliquer.
Ah, ben, oh là là.
On est connectés.
Voilà.
Oui, c'est tout à fait ça. À l'inverse, très régulièrement, il n'y a pas de véhicule. Donc, le véhicule personnel du bénévole, par exemple, va être utilisé. Là, il faut que le bénévole passe un coup de fil à son assureur pour indiquer qu'il va utiliser son véhicule personnel dans le cadre d'activités associatives. C'est ce qui permettra qu'en cas de souci, l'assurance de l'association et celle du bénévole qui a utilisé son véhicule puissent être mises en relation. Et par contre, et c'est un petit peu comme j'ai cité la complémentaire garantie conducteur renforcée, l'association peut appeler son assureur et voir quelle extension de garantie elle pourrait prendre. Là aussi, c'est difficile. Hein. Il y a plein de possibilités d'extension de garantie, donc je ne vais pas toutes vous les citer,
non,
ça m'intéresse
oui.
pas forcément ce matin. L'idée, c'est plutôt de dire, on va étudier en fait dans quel cadre le véhicule personnel est utilisé, et surtout si c'est récurrent. Parce que si c'est exceptionnel, et sur par exemple sur 3 jours, là effectivement, le bénévole va appeler son assureur, va prendre une extension de son côté, ou en tout cas indiquer l'utilisation de son véhicule. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent, là il faut que l'association appelle son assureur et voit quelles garanties et quelles extensions peuvent être prises pour pouvoir apporter son soutien en tant que responsabilité civile à son ou ses bénévoles.
D'accord. C'est complet et précis. Autres exemples dans le cadre qu'il faut bien prendre une assurance?
Oui, alors je ne vais pas m'apesantir dessus parce que ça concerne un peu moins quelque chose de globalisant, mais s'il y a des travaux qui sont réalisés, je pense d'ailleurs à une association chez qui j'étais hier pour ces questions-là. Il faut penser à ce qu'on appelle, alors c'est le nom plus global, hein, chaque assureur a son nom spécifique, mais une garantie dommage-ouvrage, parce que en cours de travaux, ben il faut pouvoir avoir une extension. Si vous gérez une crèche ou une halte garantie,
garderie.
Pardon, une halte garderie.
On est dans les garanties.
Tout à fait. Donc là aussi, il faut vraiment spécifier, c'est des activités qui sont très spécifiques, donc la responsabilité civile va être adaptée. Pour tout ce qui est centre de vacances, n'oubliez pas aussi de le préciser dans votre responsabilité civile de base et l'organisation de séjours ou d'accueil de séjours qui sont réguliers, hein, dans le cadre des centres de vacances ou des bases d'accueil. Là aussi, il y a des contrats qui sont temporaires sur la tranche de date à laquelle vous allez ou accueillir ou faire venir des personnes. Donc tout ça, il faut vraiment le penser pour mettre à jour. On a déjà cité le cadre des associations sportives. N'oubliez pas que pour les associations sportives, il y a une obligation. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'information de la part des dirigeants. On y reviendra dans la prochaine émission également. En fait, c'est ce qu'on appelle le contrat individuel accident. En fait, les dirigeants associatifs ont l'obligation, aussi encore une fois par la loi, d'informer leurs membres licenciés qu'ils ont la possibilité de prendre une individuelle accident, ce qui va leur permettre d'augmenter leur plafond de garantie en cas d'accident. Je pense aussi à des risques sportifs plus élevés tels que l'auto ou la moto, où ça peut même aller jusqu'à du décès ou en tout cas de la paralysie, enfin vraiment de gros dommages. Donc c'est là que bien souvent on a des licenciés qui prennent une individuelle accident. C'est eux qui la payent, c'est eux qui transfèrent l'information à leur association, mais il n'y a aucune obligation de part et d'autre de prendre cet individuelle accident, à part celle d'en informer ses membres et de pouvoir prouver qu'ils les ont informés de cette possibilité-là.
D'accord. Ça marche. Et puis, on en a parlé effectivement des manifestations ponctuelles ou exceptionnelles. Ben là, de demander une extension de garantie hein, aussi.
C'est ça.
On est d'accord.
Exactement.
Eh bien, on va continuer avec les responsabilités justement un petit peu des dirigeants. Parce que, ben voilà, il faut faire ça, mais pourquoi?
Oui. C'est dans la continuité, c'est en introduction à la prochaine émission. Effectivement, quelle est la responsabilité des dirigeants? Il y a trois grandes responsabilités. Il y en a en plus, mais je prends les trois grandes aujourd'hui qui sont en rapport avec l'assurance. C'est vraiment la responsabilité déjà à l'égard de l'association. Le dirigeant, en tant que personne physique, est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion pour la structure morale. Donc, s'il y a, on prend souvent l'exemple, détournement de fonds, par exemple, sa responsabilité va être engagée, c'est justement une responsabilité de gestion, et réparation peut être demandée. Il a également une responsabilité à l'égard des membres de l'association et des tiers, du public, par exemple, comme nous l'avons cité. C'est les fameuses responsabilités dites contractuelles et délictuelles que nous avons vues tout à l'heure. Et quand j'ai cité les obligations de sécurité, par exemple, d'information, etc., ça rentre dans ce cadre-là, cette responsabilité à l'égard des membres et des tiers.
D'accord.
Et puis, la responsabilité qui est pénale, en fait, on le cite, je fais quand même cette parenthèse aujourd'hui, être le représentant de structure morale n'enlève pas la responsabilité pénale de l'association et des personnes physiques. Qui peuvent être complices des faits au titre de la structure morale. Par exemple, un dirigeant qui a détourné une partie des chèques du compte de l'association, il va engager la responsabilité pénale de l'association, mais aussi, après étude des circonstances, sa responsabilité personnelle, pénalement.
Bien sûr.
Voilà.
Ok, je voulais terminer par un dernier conseil, je crois, auprès des associations sur ce sujet. Ou quelques conseils.
C'était une petite introduction que nous faisons ce matin. On peut aller beaucoup plus loin et souvent ça soulève d'autres questions.
Ouais.
Mon conseil ce matin, c'est de faire le point régulièrement sur les points qu'on va détailler, enfin en tout cas lister, et de ne pas hésiter encore une fois à appeler son assureur. Les points qu'il faut vérifier, c'est les activités de son association, les événements qui sont prévus dans l'année. Lister les membres qui composent son bureau, les bénévoles, les adhérents, mais également le matériel de l'association. Petit conseil supplémentaire, vous faites des listes, par exemple, du matériel de l'association. Quand vous allez remplir votre contrat, c'est des plafonds de la valeur globale de votre matériel qui vont être étudiés par l'assurance. Vous avez listé de votre côté le détail de votre matériel et sa valeur globale à neuf. Gardez une trace dans un classeur ou sur votre ordinateur, parce que si vous voulez réviser ou s'il y a un changement de bureau votre contrat, l'assurance n'aura pas forcément gardé ce document. Et bien souvent, on pense toujours à « il ne faut pas qu'on oublie d'assurer quelque chose », mais vous pouvez aussi gagner de l'argent. Parce que parfois, on a des choses qui ont été
qui sont obsolètes,
il y a 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, et qui ne sont parfois ni plus là, voire même plus à assurer. Et ça peut vous faire gagner aussi de l'argent sur votre contrat. Donc mettez régulièrement à jour tous ces éléments. Et bien sûr, on les a cités, tout ce qui est véhicules et locaux de l'association.
D'accord. Ah oui, ça, il ne faut pas hésiter à contacter son assureur pour tout bien faire ça et re-questionner. Et puis des fois aussi, c'est l'occasion de, comme vous l'avez dit à un moment, faire des devis aussi. Hein. Et puis justement, sur toutes ces démarches, vous, au sein de la Ligue de l'enseignement, Tiffaine et les collègues, vous pouvez accompagner les associations dans toutes ces démarches, tous ces questionnements. Hein.
Oui, effectivement, moi je suis ce qu'on appelle intermédiaire en assurance. Je fais le lien avec une assurance associative que nous avons au sein de la Ligue de l'enseignement qui est l'APAC. Et plus globalement, de toute façon, je vais dans les associations et je les aide à faire un diagnostic en les invitant à faire des devis chez d'autres assureurs. Donc ça permet vraiment de faire le point aussi ensemble. Et bien souvent, d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça aide à se rappeler de petites choses qu'on aurait oublié de déclarer ou au contraire qu'on pourrait enlever de son contrat.
D'accord. Ça marche. Et donc, on va, comme Tiffaine nous l'a dit, on a déjà le lien avec la prochaine émission puisqu'on se retrouve le 17 novembre pour parler de...
Des obligations et de la responsabilité des dirigeants associatifs.
Ok. Et puis, on continuera un petit peu en décembre, toujours sur les associations, sur les différentes formes un petit peu de gouvernance, c'est ça?
Oui. On verra les formes de gouvernance associative, la différence entre une forme plus traditionnelle, président, secrétaire, trésorier, et puis notamment les associations dites collégiales. Ce sont les deux grands formats dont on parlera, même si on pourra revenir sur d'autres modes de gouvernance.
D'accord. Eh bien, c'est parfait. Comme d'habitude, c'est très, très clair. On est dans le timing pile poil par rapport au format d'émission qu'on vous propose à vos auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à nous faire des retours hein, ou si ça pose des questions ou des sujets que, justement, vous souhaiteriez voir aborder avec Tiffen ou ses collègues de la Ligue ou même d'autres sujets, parce que c'est le but, hein, c'est de répondre à vos questions. Mais des fois, ça en soulève aussi. Donc, n'hésitez pas. Peut-être qu'on va rappeler peut-être un numéro de téléphone, Tiffen, de la Ligue.
Oui, alors pour me joindre directement sur ces questions-là, donc c'est au 03 81 25 06 41. Voilà, et donc je suis Tiffen Rolland de la Ligue de l'enseignement du Jouf. On est une fédération d'associations et un centre de ressources.
Ok, eh bien très bien. Si auditeurs, auditrices, vous avez des questions à nous poser, ben, n'hésitez pas à nous en faire part via les réseaux, via les mails, via les téléphones. On trouve toutes nos coordonnées sur notre site. Ben, merci encore, Tiffen.
Merci, Laurent.
Belle fin de journée. Au revoir.
Au revoir.